non, ce week-end, je viens pas parce que je suis trop fatigué.
Oui.
Enfin, je voulais faire une petite pause parce que c'était compliqué.
Mm.
Et puis, la semaine d'après, ça allait toujours pas. Et puis, au bout de deux semaines, je l'ai appelée et elle répondait plus. Elle répondait plus.
Mais elle était décédée?
Et non, elle n'était pas décédée. Et en fait, donc du coup...
Alors attendez, pardon, oui, on doit marquer une pause le temps des infos, hein, donc je reviens vers vous tout de suite après, d'accord? Ne raccrochez pas tout de suite.
Non,
tout de suite. RTL.
Belle nuit à l'écoute de RTL, il est minuit. À l'info avec Rachel Sadoudine. Bonsoir Rachel.
Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Plusieurs centaines de policiers et gendarmes sont mobilisés dans le cadre de l'enquête sur l'attaque meurtrière d'un fourgon pénitentiaire ce matin dans l'Eure. Déclaration de la procureure de la République de Paris, Laure Bacuo, qui a exprimé son soutien aux familles des deux agents pénitentiaires tués, l'un âgé de 52 et l'autre de 34 ans. Trois autres sont gravement blessés. Le détenu qu'il transportait, Mohamed Amra, 30 ans, a déjà été condamné à 13 reprises. Il est encore en fuite en ce moment, tout comme ses complices qui ont ouvert le feu sur le fourgon pénitentiaire au niveau du péage d'Incarville. Nous les trouverons et ils paieront, a promis le Premier ministre Gabriel Attal. Son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a demandé qu'une minute de silence soit respectée à 11h dans les prisons et les tribunaux. L'intersyndicale des établissements pénitentiaires appelle de son côté à une journée prison morte, un mouvement reconductible. Des agents pénitentiaires tués dans l'exercice de leur fonction. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 30 ans en France. Pour en parler, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 dans la matinale d'RTL. Le reste de l'actualité, ces mains rouges qui ont été taguées sur le mur des Justes à l'extérieur du mémorial de la Shoah à Paris. Emmanuel Macron dénonce une atteinte à la mémoire des victimes. Le chef de l'État qui promet une république inflexible face à, je cite, un odieux antisémitisme. L'actualité à l'international avec la Géorgie après l'adoption de la loi controversée sur l'influence étrangère. Les États-Unis menacent de réévaluer leurs relations avec le pays du Caucase, aussi appelé loi russe par ses opposants. Ce texte pourrait être mis de côté par la présidente géorgienne. La Maison-Blanche dit ce soir espérer justement que la chef d'État utilise son droit de veto. En Ukraine, le gouvernement annonce des coupures de courant dans tout le pays après de nouveaux bombardements russes. Le président Volodymyr Zelensky réclame des livraisons d'armes de toute urgence à ses alliés occidentaux pour faire face à l'offensive russe dans le nord-est du pays. L'armée de Moscou qui indique gagner du terrain dans la région de Kharkiv et revendique d'avoir pris le contrôle d'un nouveau village. Le football dans le championnat anglais, Manchester City profite de sa victoire 2-0 contre Tottenham ce soir pour reprendre la tête de la Première Ligue aux dépens d'Arsenal et ça juste avant l'ultime journée. Manchester City qui tutoie le rêve d'un quatrième titre d'affilée, une série encore jamais réalisée en Angleterre. L'actrice Meryl Streep récompensée par une palme d'or d'honneur en ouverture ce soir du 77e Festival de Cannes. On reviendra bien sûr sur cette cérémonie sur la croisette présentée par l'actrice française Camille Cotin dans la matinale avec notre envoyé spécial Stéphane Boutsock. La météo, eh bien le temps sera instable toute la journée avec des nuages, quelques éclaircies en Normandie mais des averses qui se feront parfois orageuses surtout dans le sud-est, de la neige à 1900 mètres sur les Pyrénées. Et puis côté température, on note une légère baisse, comptez 9 degrés à Cherbourg, 10 pour Toulouse, 11 à Bordeaux, 13 à Paris et Nancy, 15 degrés pour Nice. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 13, l'As, le 12, le 6, le 16, le 3, le 14 et l'outsider de RTL, l'As Fashion Touch, attention, le 9, Enemy et non partant.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
La nuit porte conseil et sur RTL de 22h à minuit et demi, on se parle en toute quiétude de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui vous préoccupe et puis on partage aussi des moments de joie comme comme avec Philippe qui nous disait qu'il avait finalement retrouvé son épouse avec qui il allait fêter ses 22 ans de mariage. 09 69 39 10 11, nous retrouvons sans plus attendre Will. Merci d'avoir patienté, Will.
Oui, pas de souci.
Alors, vous étiez en train de m'expliquer que donc votre compagne qui est décédée d'un cancer il y a 4 ans, vous aviez constaté chez elle un changement d'attitude, vous la trouviez plus agressive, vous pensiez que c'était lié à l'après-ménopause. Et puis vous voyez les week-ends normalement, et puis un jour vous appelez, vous n'avez plus de nouvelles.
Non.
Elle ne répond pas en tout cas.
Voilà. 2019, elle ne répond plus. Donc je prends mon courage et puis je vais jusqu'à chez elle. Et puis quand j'arrive, la maison était vide. La maison était vide, elle avait déménagé.
Le choc.
Ça a été compliqué.
D'accord.
Plus de nouvelles, c'était en octobre 2019.
Parlez bien, si c'est possible, Will, près de votre téléphone. C'est un peu sourd, vous n'avez pas de haut-parleur?
Non,
pas de haut-parleur. D'accord, donc le son est un petit peu étouffé.
D'accord. Donc, effectivement, quand je suis arrivé dans la maison, il n'y avait plus rien, tout était vide. Et puis, je me suis fait virer par le propriétaire qui me dit « Non, elle n'est plus là, elle est déménagée ». Et puis, plus de nouvelles, plus rien.
Mais vous ne l'aviez pas vue depuis combien de temps?
Ça faisait 2 semaines.
D'accord. Donc, depuis 2 semaines, vous n'arriviez pas à la joindre.
Non.
Et quand vous arrivez sur place, plus personne?
Plus personne. Et puis, j'ai appris par un ami en commun, par mes gardes, qu'elle avait trouvé une autre maison, qu'elle avait déménagé. Et je ne savais pas où c'était, rien du tout. Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à reprendre contact avec elle. C'est là qu'elle m'a dit je suis pas disponible, je fais des traitements, machin, des examens, et je
oui.
Et là elle me dit oui, parce que j'ai un cancer du poumon.
Ah. Ouais. Ah. D'accord, c'est comme ça que vous l'avez appris et...
C'est comme ça que je l'ai appris.
Elle était déjà, oui, c'est ça. Donc là, tout prenait évidemment une autre signification. Et donc, elle a choisi volontairement de s'éloigner de vous.
Voilà, parce qu'en fait...
Quand elle a appris qu'elle était malade.
Voilà, et puis alors pour la petite histoire, c'est qu'elle était veuve très tôt, à 22 ans... Son mari, au bout de 6 mois, il est mort d'une leucémie.
Oh là là, la pauvre, c'est vraiment des destins.
Je voulais pas te faire subir ça, donc du coup, je me suis éloigné. Voilà, je voulais mourir seul. Et je lui ai dit, mais c'est pas une décision qu'on prend tout seul, c'est une décision qui m'appartient à moi. Si j'ai envie de rester, je reste.
Oui, mais oui.
Mais du coup, après deux mois de séparation,
oui.
On a fini par discuter, on a fini par se rabibocher, et puis c'était un peu compliqué, c'était dans la période Covid.
Donc, en
voyant du monde, et puis qu'elle au niveau santé, c'était vraiment pas bon. Mm. Et puis au fur et à mesure d'avancer, il y avait des moments où elle pouvait même pas aller à l'hôpital parce que c'était très compliqué pour elle, parce que
Oui, à ce moment-là, bien sûr, quand on est des personnes immunodéprimées avec la Covid, c'était terrible, oui.
Après le Covid, elle a fait une petite fête, et puis je suis venu, et puis le lendemain, elle a eu un malaise, j'étais obligé d'appeler les pompiers, et puis donc du coup, ils sont venus la chercher, ils l'ont emmenée à l'hôpital, et après, elle est restée tout le temps à l'hôpital.
Voilà. Elle n'est pas ressortie de l'hôpital. Mais elle a accepté finalement que vous restiez auprès d'elle.
Oui, parce que moi je voulais, j'avais fait une promesse de rester jusqu'au bout. Je me serais surtout jamais pardonné qu'elle soit pas là, que je sois pas là avant qu'elle décède, quoi. Mmh. Mais bon, à la base, elle n'était pas censée décéder comme ça.
Bien sûr.
Très rapide. Elle a fait un arrêt respiratoire et puis elle a été mise en réanimation. Mmh. Et puis, à la réanimation, elles ont vu que c'était le permis et que du coup. Donc ça, ça a été. Ça a été
très c'est très, c'est très dur. Enfin, oui, je comprends. C'est. Oui. Oui.
Puis, donc du coup, après son décès, effectivement, pendant un an, je suis resté comme ça. Déjà pendant plus d'un mois, je dormais pas, je dormais plus. En pleine nuit, ça m'a pris. J'ai pris la voiture, puis j'étais à l'hôpital psychiatrique, et puis voir s'ils pouvaient pas m'hospitaliser. Quoi.
Ah oui, vous avez demandé à être hospitalisé.
Oui, on m'a dit, bon, vous n'êtes pas assez fou, alors du coup, on va vous aider, vous n'avez pas dormi, on va vous donner. Donc, j'ai enfilé des médicaments assez costauds.
Donc, vous avez vu un psychiatre quand vous êtes...
J'ai vu un psychiatre, ça a été très rapide. Et puis voilà, quoi, donc c'est comme ça.
Mais vous continuez, parce que là, vous me dites qu'à un moment, vous étiez tellement mal, tellement à bout, vous vous êtes rendu à l'hôpital pour être hospitalisé. Vous savez, vous me dites, ils vous répondent, vous n'êtes pas assez fou, on vous hospitalise pas. Quelqu'un qui, on peut être dans un état de souffrance aiguë sans être fou, hein. Et on hospitalise. Hein, vous voyez, je suis un peu surprise par la réponse, là.
Moi, je sais que, voilà, quand je suis venue...
Alors, si c'était en plein Covid, tout était plus compliqué aussi pour les hospitalisations, évidemment. Hein.
C'est... Je pense aussi, il y avait cette période...
Je ne sais pas ce que vous faites avec votre téléphone, pardon, mais il y a beaucoup de l'Arsen sur la ligne. Vous devez bouger avec votre téléphone, le son n'est pas bon. Vous bougez beaucoup et à l'antenne, ça fait beaucoup de l'Arsen.
D'accord.
Voilà, si vous pouvez moins bouger, ou c'est déjà que le son est un peu étouffé. Donc on vous a fait une prescription, le médecin qui était de garde qui vous a vu, et d'accord, parce que vous me disiez que vous étiez resté un an dans votre chambre, enfermé, donc vous aviez vu quelqu'un à ce moment-là.
Effectivement, j'ai vu quelqu'un, mais qui m'a pas suivi, m'a juste donné des médicaments pour
d'accord.
dormir, et tout, quoi.
D'accord. Qui vous a pas dit que vous pourriez voir quelqu'un en libéral.
Non, ils m'ont laissé comme ça. Bon. Et puis bon, au bout d'un an de rester dans ma chambre, j'ai décidé de me bouger. Donc du coup, j'ai changé de travail.
Oui.
J'ai fait un autre travail et on m'a fait beaucoup de promesses. Et puis ma vie a continué. J'ai eu du mal à me remettre avec quelqu'un. Je me suis mis avec quelqu'un, mais c'était pas la bonne personne parce que en fait, elle buvait. Elle était alcoolique. Et je me suis accroché à cette personne parce que c'était une espèce de bouée, quoi, parce que j'avais besoin de
oui, de pas être seul, d'être à nouveau, de vous dire qu'il y avait quelqu'un dans votre vie, d'aimer, d'être aimé, d'être soutenu, enfin, bon.
Oui, voilà.
Mais et bon, puis, elle allait très mal si elle-même était aux prises avec l'alcool.
Sûr,
bon.
Bien sûr.
Oui.
Et puis après, bon, elle était agressive, elle m'a planté plusieurs fois ses ongles dans la peau et compagnie. C'était compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Mmh. Et puis j'ai retrouvé une autre copine qui était impeccable. Tout se passait bien au départ. Et puis au fur et à mesure, ça a été un peu plus compliqué parce que la vie fait que elle avait un enfant et puis que cet autre enfant était très accaparant. Et très demandeur de sa mère. Et puis en fait, elle était dans une... Ça faisait longtemps qu'elle était célibataire. Elle avait son petit train-train. Et en fait, j'ai l'impression...
Il avait quel âge, cet enfant?
Elle a 12 ans.
D'accord. Oui, donc ils avaient pris l'habitude de vivre tous les deux.
Voilà.
Peut-être que c'était compliqué pour cet enfant garçon.
Un garçon.
Oui, et de vous voir débarquer, entre guillemets, dans la vie de sa mère et troubler un peu. Oui. Pas simple de trouver votre place, quoi.
C'est un peu compliqué parce que là, quand vous allez vous coucher, puis qu'il faut laisser la porte de la chambre de ma copine communiquer avec la chambre de son fils, il faut laisser la porte ouverte.
Bon, à 12 ans.
Ah oui, à 12 ans.
D'accord.
Et puis.
Oui, ils étaient très fusionnels tous les deux, enfin encore.
Et aussi, au niveau intimité, c'est pas.
Non, c'est pas l'idéal, je suis d'accord avec vous aussi. Il y a l'enfant qui est à côté, qui peut. Bien sûr. Oui, oui, oui. Mais ils avaient pris l'habitude de vivre comme ça, et donc pour vous, c'était compliqué de trouver votre place.
Oui, compliqué.
D'autant que vous, vous étiez aussi très en demande, et pour d'autres raisons. Que
oui, et puis là, bon, bah, ça s'est passé, puis bon, j'avais accepté les règles, mais un petit exemple, déjà, vous allez vous coucher, vous discutez avec votre copine, et puis lui, il se mêle à la conversation, voilà, il se mêle à la conversation.
De son lit, de la chambre.
Oui, voilà, bah oui.
Oh oui, non, là, ça va pas du tout. Oui, il n'y a aucune intimité, de couple, oui. Pardon, mais le téléphone est vraiment pas bon. Oui, ça bouge, c'est pas. Il y a le son par moment est très étouffé.
Ouais, pourtant, je ne bouge pas.
C'est votre téléphone, je crois qu'il y a un petit souci.
Et en fait, je dis une blague à ma copine et puis en fait, elle se met à rire et puis là, tout de suite, il me dit "Maman, tu pleures? Maman, tu pleures? Maman, tu pleures?" Alors, il a dit, mais non, je ne pleure pas.
Oui, ah, bon, c'était pas possible. Vous avez un kit main libre ?
Oui, si vous voulez, je peux
peut-être. Ah, mais voilà. Merci, Oriane. Elle me dit depuis le départ, il faut l'enlever, le kit main libre.
Je croyais que vous vouliez que je le mette. Non, je n'ai pas de kit main libre.
Parce que le son est mauvais. Bon, oui, enfin, ça a été compliqué, donc avec. C'est ça, vous aviez un peu un couple déjà, mère-fils en face de vous. C'était compliqué. Voilà. Donc vous êtes toujours avec cette dame ?
Ça s'est terminé il y a un mois et demi.
Il y a un mois et demi que vous n'êtes
plus. J'étais pas bien dans ma tête avec l'histoire de ma maman. Au boulot, ça va vraiment pas.
Ça fait beaucoup.
Et puis là, je reçois un SMS. J'étais au boulot, je reçois un SMS. Alors, bon, on s'était pris la tête un petit peu au téléphone ensemble. Je suis quelqu'un qui encaisse beaucoup, mais quand c'est trop, j'ai tendance à être
bien sûr.
J'essaie de gérer ça depuis des années, et là, j'essayais d'être calme et posé, tout ça, d'expliquer un peu ce qui n'allait pas, parce que c'était compliqué. Et puis, au téléphone, le samedi, on discute, et puis, en fait,
Alors attendez, vous discutez avec qui ? Parce que vous me parlez de votre travail et là vous revenez sur votre compagne ?
Non. Donc au travail ça n'allait pas du tout.
D'accord.
Et puis plus l'histoire, enfin que ma maman ça n'allait pas.
Oui, bien sûr.
Il y avait beaucoup de choses dans ma tête qui n'allaient pas.
Ben oui, je comprends.
C'était compliqué, ça n'allait pas trop.
Ouais.
Mais bon, je pensais que c'était une passe mauvaise passe et puis qu'on allait pouvoir surmonter ça. Et puis donc on s'est pris un petit peu la tête pour essayer d'expliquer un peu les choses. Et puis on a mis des choses en place le samedi où je l'ai eu. Toute la semaine, on a essayé de voir les petits grains de sable, comme elle appelait, petits grains de sable qui bloquent la mécanique pendant la semaine, et donc on était en train d'arranger les choses, de trouver des compromis pour pouvoir arranger les choses. Et puis le jeudi, je reçois un message, non, finalement,
elle n'y arrivait pas.
Arrête.
Oui, elle pouvait pas. Bon, mais c'est comme ça. Elle vivait depuis, c'était pas des petits grains de sable, c'était plus complexe que ça, d'après ce que vous me dites, elle vivait depuis des années en tête à tête avec son fils qui rentrait dans l'adolescence, ils étaient très fusionnels et c'était compliqué pour vous de trouver votre place. Mais moi, ce que j'entends, ce que vous me dites, Will, c'est que vous encaissez depuis des années jusqu'à ce que ça explose. Il y a un moment où, d'ailleurs, vous aviez bien fait. Vous êtes allé à l'hôpital en disant « j'en peux plus, il faut que je sois hospitalisé ». N'attendez pas à nouveau que ça explose. Il vaut mieux anticiper, prendre les devants. Parce que vous me le dites vous-même, Will, l'annonce de la maladie de votre maman vient vous percuter et vient... raviver la douleur encore récente, le deuil que vous avez vécu de votre compagne.
Oui, Oui, ben je. Bon,
parce que donc vous, ça, il y a aussi cette angoisse avec cette histoire de possibilité de gêne. Bon, je trouve que là, mais on ne peut pas évidemment. Votre maman est elle-même certainement assommée par le diagnostic et mais. Tout a été fait avant même d'avoir le résultat, de savoir s'il y avait une dimension génétique. Elle vous parle déjà de faire un test sans avoir les résultats du sien. Il n'empêche que maintenant c'est là et vous avez ça dans la tête. Et que ça dans la tête, ça vous fait revivre le décès de votre compagne. Bon, ça fait beaucoup. Dans votre boulot, ça va pas bien. Donc, je pense qu'il serait important que vous anticipiez et que vous demandiez de l'aide et que vous soyez un peu soutenu psychologiquement, là, pour voilà. traverser tout ça. Hein. Que vous bah, ayez un peu un espace pour en parler.
Hein. Là, j'ai du mal à... Oui,
vous avez du mal à dormir, et c'est normal parce que vous êtes très angoissé. Bon, quand on dort mal, eh bien, on se fatigue, et physiquement, et psychiquement... On est plus en proie à la rumination, à la... Donc déjà, ce que vous vivez, quand même, ça vous ramène à la perte, c'est très déprimant. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous preniez les devants et que vous soyez accompagné un peu psychologiquement, là. Ça vous fera du bien. On voit bien, vous avez besoin de parler, et c'est compréhensible.
Oui, j'ai besoin de parler, puis j'essaie de trouver des réponses, et là où il n'y a pas
forcément de réponse. Non, il n'y a pas forcément de réponse.
La séparation il y a un mois et demi avec ma copine,
oui.
Je lui ai posé la question et elle me dit non mais en fait c'est même pas toi,
oui.
même les grains de sable qu'elle m'a reproché, c'est dérisoire, c'est...
Non mais elle vous le dit, Will, c'est pas forcément vous, c'est pas dérisoire. Après, vous savez, de toute façon, il y a beaucoup de disputes, de conflits qui éclatent en apparence sur des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui cachent souvent des choses plus complexes. Or, là, vous dites que cette jeune femme vivait depuis des années avec son fils de 12 ans, le père n'était pas présent, semble-t-il, ils vivaient un peu comme un couple, lui... Entrant dans l'adolescence, cette histoire, c'est symbolique de chambre qui doit communiquer, qu'on ne peut pas fermer. C'est-à-dire, il était toujours là, mais parce qu'elle lui laissait, c'est pas l'enfant qui est responsable, cette place-là aussi. Et que, à un moment donné, évidemment, entre son fils et vous, d'une certaine façon, elle va faire le choix de son fils. Alors, faire le choix... Vous n'êtes pas à la même place. Un amoureux et un enfant, c'est pas la même place. Mais là, elle ne s'en sortait pas parce que, voilà, c'était compliqué. Bon, c'est comme ça. Ça faisait peu de temps que vous l'aviez rencontré. Ça a été compliqué.
Ça faisait 9 mois.
Bon, ça faisait 9 mois. D'accord, je croyais que c'était un accord un peu...
Non,
plus récent. Mais vous voyez que, Will, dans votre tête, c'est pas étonnant que vous dormiez pas. Tout ça, là... Tout ça est en train de se mélanger, toutes ces pertes, ces ruptures, que tout ne peut pas être sur le même plan, mais toutes ces angoisses. C'est important que vous acceptiez un peu d'aide, là.
J'arrive pas à dormir, puis j'arrive pas à manger non plus.
Bah, alors, donc, c'est pour ça. Il faut, vous allez vous épuiser. Parce que pour, physiquement et pour tenir, il faut que vous puissiez dormir, récupérer, au moins quand vous dormez, vous ne pensez pas à tout ça, et puis que vous puissiez vous alimenter, bon, sinon vous allez vous épuiser. Donc, voyez votre médecin traitant, déjà, puisque vous pourrez lui parler de votre mère, et bon, il comprend. Et il pourra, au besoin, si vous le souhaitez, vous orienter vers un psychothérapeute. Il faut que vous ayez un peu un lieu où vous n'avez pas vraiment été accompagné dans le deuil de votre compagne. Les médicaments, ça règle pas tout. Ça vous a aidé à un moment à dormir, oui, mais vous n'avez pas pu exprimer ce que vous avez vécu et ça a été très lourd. Là, l'annonce de la maladie de votre mère vient raviver tout cela Et forcément, vous percutez de plein fouet. Donc, n'attendez pas de vous écrouler. Faites quelque chose avant.
Oui.
Donc, demandez rendez-vous avec votre médecin traitant. D'accord. Vous êtes là, Will? Est-ce que vous êtes là? Bon. Will, est-ce que vous m'entendez? Oriane, est-ce que tu as Will en ligne ou pas? Bon. Il est parti, il a raccroché, je ne sais pas. Bon, Will, je ne sais pas, il y avait vraiment un souci avec votre téléphone. J'espère que ce n'est pas peut-être la batterie qui vous a lâché. Si c'est ça, ce n'est pas très grave. Mais vraiment, prenez rendez-vous et c'est bien que vous soyez un peu accompagné. Bon courage à vous.
Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
Last thing I remember, I was
Allez, je ne vais pas vous faire l'offense de vous les présenter. C'est Eagles Hotel California. On se quitte en musique ce soir. Je vous souhaite une très belle nuit. Voilà, j'espère que Will va passer une nuit plus paisible lui aussi. Je vous embrasse et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous ce soir avec toute la petite équipe. On sera là à 22h sur RTL.
De passer la nuit à l'écoute de RTL.
Tout de suite, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter Entrer dans l'Histoire, la quotidienne, la chronique matinale de Laurent Deutsch. Tous les jours à 7h20.
Bonne nuit et bonne écoute.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Yves, bonjour Amandine.
Aujourd'hui, on continue bien sûr notre série des grandes et petites histoires liées au débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Ce matin, vous nous emmenez dans les pas d'un géant de la littérature.
Et oui, et petit hommage en passant au regretté Bernard Pivot, car figurez-vous que parmi les 150 000 héros qui ont débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin, il y avait un des écrivains les plus célèbres du XXe siècle, un des auteurs les plus lus, les plus adaptés au cinéma, prix Nobel de littérature en 1954. Alors d'après vous, hein, qui était cet illustre passager en route pour le D-Day?
Vous n'allez pas nous dire Ernest Hemingway?
Mais bim, bien sûr, Ernest Hemingway au D-Day, ça rime. Le plus francophile des auteurs américains, amoureux d'ailleurs de toutes les cultures, et de la France en particulier. Il habitait Paris durant les années folles, et c'est à lui d'ailleurs qu'on doit l'expression symbole de notre capitale, Paris est une fête.
Alors Laurent, en 1944, Hemingway est déjà un écrivain renommé, et même s'il aime la chasse et tenir un fusil dans les mains, j'imagine que c'est plutôt pour tenir la plume qu'il a accompagné les G.I.s.
Oui, mais vous savez, il aurait sans doute bien aimé combattre pour aller libérer la France. C'était un soldat, Hemingway. Il s'était déjà battu pendant la Première Guerre mondiale, mais effectivement, c'est en tant que journaliste qu'il va couvrir le conflit, comme il l'avait déjà fait pour la guerre civile espagnole en 1936, aux côtés des Républicains contre Franco.
Une guerre qui a inspiré son chef-d'œuvre pour Qui sonne le glas.
Ah, exactement. Il était courageux, Ernest. Et c'est donc en tant que correspondant de guerre qu'il a accompagné la 7e vague de GI américains débarquant sur les plages d'Omaha Beach.
Et il a débarqué donc lui aussi?
Eh ben non.
Ah.
Et c'est pas parce que c'était une célébrité hein, trop précieuse pour aller se faire tuer, mais c'est parce qu'il était insupportable. Il se la pétait carrément, Hemingway. Il se prenait pour un chef de guerre, il obéissait pas, il donnait des ordres. Oh. En un mot, il foutait le bordel, et du coup, ses supérieurs lui ont interdit de débarquer. Il a dû couvrir le 6 juin, de loin, à la jumelle, assis sur des caisses de dynamite. Ce qui ne l'empêchera pas d'en tirer quand même un magnifique roman, En route pour la victoire.
Mais il a quand même fini par débarquer.
Ah oui, mais 42 jours plus tard, et il a dû galoper pour attraper la ligne de front, car il s'était juré d'entrer dans Paris le premier. Il prétendra d'ailleurs avoir libéré lui-même le palace, le Ritz, avec un petit groupe de commandos.
Il l'a fait ?
Non, pas du tout. C'est une légende urbaine, car en réalité, à son arrivée à Paris, il s'est fait envoyer balader loin des points chauds par le général Leclerc lui-même. Un peu mytho, un peu macho, mais tellement génial. C'était aussi ça, Ernest Hemingway.
Prochain rendez-vous avec Laurent Deutsch, tout à l'heure à 7h20 ou dès maintenant en podcast sur rtl.fr et l'application RTL. Et tout de suite, on rit ensemble avec l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonne nuit à l'écoute de RTL.
Philippe Jordan Bardella, président du Rassemblement National et tête de liste du parti aux élections du 9 juin prochain, est donc resté pour votre chronique.
Oui, la Ligue des Champions, bah il a gagné. Il mène 4-0 à la 88e, c'est plié. Bonjour Jordan. Vous n'avez que 28 ans. Vous êtes le Mbappé de la politique, le Victor Wembanyama de la droite dure, le Vinicius Junior des Européens. Dis donc, ça en fait des Noirs. J'espère que Jean-Marie Le Pen ne nous écoute pas. Je suis européen. On est rassurés. Alors, Jordan, ce n'est pas que des gros sondages, c'est aussi des gros muscles. Vous êtes le Thibaut Inchep du Parlement européen, le Schwarzenegger du RN, le Sylvester Stallone des Patriotes. Si vous arrivez à lire autant de bouquins que vous soulevez de fonte, on a trouvé le nouveau Bernard Pivot. Jordan, vous êtes la preuve qu'on peut réussir dans la vie en s'appelant Jordan. Combien d'autres Jordan ont sûrement rêvé de politique, mais se sont cognés au plafond de verre du prénom et végètent aujourd'hui au sein d'une triste télé-réalité à Mykonos, ou Ibiza. Quand tu t'appelles Jordan, a priori, ton avenir est plus sur Énergie 12 et W9 que sur BFM et sur CNews. On se dit les choses.
Alors, on rappelle que les sondages sont en ce moment extrêmement favorables pour le Rassemblement national.
Oui, alors c'est vrai que j'ai dit hier que la défaite était impossible, à moins que vous fassiez une énorme connerie lors du débat face à Gabriel Attal sur France 2. J'avais émis l'hypothèse d'une bifle surprise à Laurent Delahousse. Voilà, qui est souvent administré en aller-retour. Voilà, et une bifle de droite dure, une bifle de 28 ans. C'est costaud. C'est pas une bif de Jean-Luc Mélenchon, 62 ans. Ça doit être beaucoup moins violent, bien sûr, évidemment. Attention, Jean-Luc, tu as fait pipi mon épaule en voulant me bifler. Non, parce qu'il peut dire « La République, c'est moi », il pourra jamais dire « La bif, c'est moi ». On ne le croirait pas.
Alors, dimanche environ, 850 militants d'ultra-droite se sont rassemblés à l'appel du comité du 9 mai.
Oui, enfin, ultra-droite. Tout de suite, les grands mots, c'est pas parce qu'on a la nuque un peu dégagée, un petit polo pour Fred Perry près du corps, des t-shirts White Race avec des S comme les SS qu'on est d'ultra-droite. Si, un peu, on est un peu d'ultra-droite. Oui. Alors moi, quand j'ai vu tous ces jeunes avec la peau très blanche et des crânes rasés, j'ai eu peur. Ils faisaient grand beau temps, pour une fois. J'avais envie de leur dire, attention les petits loulous, mettez une petite casquette ou un petit indice 50, sinon vous allez choper un coup de soleil ou pire, devenir bronzé. Et là, ce serait terrible pour eux. Alors, il y a une photo qui a circulé avec Valérie Yaillé. On voit ces gros gaillards se prendre en photo avec notre Valou. On a tous été choqués. Comment ils ont reconnu Valérie Yaillé? C'est vrai, ils ont quand même, ces gars-là ont quand même une conscience politique, tu vois.
Le RN pointe souvent du doigt le manque de fermeté du pouvoir en place. Pourtant, Gérald Darmanin met en avant, par exemple, l'expulsion de l'imam Iqoussen.
Oui, alors c'est dommage que l'imam Iqoussen ne soit plus là, car l'antisémitisme est vraiment très tendance sur la collection printemps-été. Mais si vous voulez des nouvelles de l'imam Iqoussen, pas de souci, on appelle Julien Courbet.
RTL.
Bonjour à tous, c'est Julien Courbet avec Hervé Sabat et Bernard Pouchol. Ou l'inverse, on s'en branle, personne n'écoute. Alors, c'est les David et Jonathan de Marc Rappé, on va tout de suite, dans un instant, appeler Marrakech. On va tenter de joindre l'imam Iqoussen, oui. On appelle en régie. Ça sonne. Voilà, on est déjà dans une ambiance berbère. Allô, imam Iqoussen. Salam, comment allez-vous? Berer, la Bessalik.
Ça va.
Tout va bien, Alhamdoulilah. Madame Iqoussen va bien?
Elle va bien, Alhamdoulilah.
Mesdames Iqoussen, 2, 3, 4 et 5, le banc des remplaçants, comme on dit, elles vont bien aussi?
Tout le monde va bien, ça fait plaisir, hein, Julien.
Elles vont bien.
Dites. Oui. Yves, Amandine, Cyprien.
Il y a Louis aussi.
Vous savez que je vous écoute depuis Marrakech.
Ah, c'est gentil.
Et ça fait plaisir, c'est formidable. Parce que, vous savez, si ça se trouve sur le Maroc, on est devant France Inter. Hein. Oui. Alors, je suis avec Jordan Bardella, le vainqueur des européennes et futur Premier ministre, sans doute futur Mister France Fitness aussi. Est-ce que vous le connaissez?
Je l'adore. Oui. Oh là 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 là, je l'adore, mon Jordan.
Oui.
Il est toujours impeccable.
Impeccable, il est là, il a
fait. Vous savez que j'ai un rêve secret.
Oui.
Ce serait de faire un selfie avec lui.
Il est fait. Ah, mais il est fait
très
bien.
Je le disais. Ça vous ennuie si je rentre en France juste pour le selfie et après je retourne à la Casbah.
Il est filou, il est malin. Vous connaissez la phrase hein, du Ralex. C'est de l'ex, les vers sont durs mais incassables.
Vous ne m'aimez plus, c'est ça hein?
Si, on vous aime toujours.
Je ne
m'aime
pas. Je ne suis plus à la mode.
Non,
c'est
mais bon, il y a des
je suis un has-been.
C'est pas ça, ne prenez pas comme ça.
Les dans toilettes ou Jackie Quartz. Hein?
Oui, mais Jackie Quartz.
Puis, je vais vous dire, hein,
oui.
Si c'est Jordan et Marine qui passent, alors là, ça repousse mon retour à 2032.
Ah, ça va repousser. Là, inévitablement, ça va repousser. Écoutez, comme vous ne pouvez pas venir à nous, on va venir à vous. On va annuler la déloque de Saint-Dizier. On vient à Marrakech. Je pense que
bon, oui.
Alors, voilà, on est. J'ai un petit message pour vous. Bon anniversaire, Florent Père. C'est l'anniversaire de Florent Père.
Eh bien, on le salue. C'est notre imam Iqoussen favori.
Oui. L'œil de Philippe Cavrivière, c'est tous les matins à 7h55 sur RTL et à tout moment en podcast sur rtl.fr et sur notre application.
Et dans un instant, RTL vous propose d'écouter un épisode de Tout savoir sur, le podcast quotidien de la rédaction. À tout de suite.
We walked for hours in winter's broke your ankle, you fell with pride. You sent me a picture on which you cried. It's hard not to answer, I'll give a try. Selfish and jealous, is that a crime? I'm selfish and jealous. The pleasure is mine. You'll share all your secrets, and I'll keep mine. We'll spend life together, just we and I.
Bienvenue, je suis Martial You. Aujourd'hui, allez, on va arrêter de compter, on va parler rétro-planning, on va essayer de tout savoir sur le niveau de préparation de nos entreprises avant les JO, parce que les JO sont lancés depuis l'arrivée de la flamme à Marseille.
Une fête populaire, sans fausse note et avec une petite surprise, une journée mémorable qui débute par le majestueux trois-mâts, le Belém, avec à son bord, après 12 jours de navigation, la flamme olympique. Les 1200 mètres carrés de voile s'approchent alors de Marseille en fin de matinée.
Ah, c'est majestueux, c'est majestueux. On dirait qu'on est dans un autre temps.
Le Belém vient de s'engouffrer à l'entrée du Vieux-Port, entre le Fort Saint-Jean et le Fort Saint-Nicolas. Et donc cette flamme olympique est venue de Grèce et qui arrive aujourd'hui en France et qui est maintenant dans les mains de Florent Manaudou. On sent le frisson qui commence à traverser un peu tout le monde ici sur le Vieux-Port.
La flamme se promène dans le pays. On voit qu'elle est bien entourée. On est largement à moins de 100 jours, quasiment 2 mois. Tout cela, on le sait, mais est-ce qu'on est prêt à franchir la course d'obstacles qui s'annonce pour les entreprises qui vont continuer à travailler pendant ce temps-là? Parce que certains ne seront pas forcément en vacances et ça risque d'être du sport, d'autant que les syndicats en profitent pour obtenir quelques petites avancées, Mathilde Piquet.
Oui, les primes se suivent et se ressemblent. Entre 500 et 1500 euros dans la fonction publique, 1000 euros à la RATP et jusqu'à 1900 euros dans les forces de l'ordre. Des résultats obtenus grâce à une menace, la grève en plein Jeux Olympiques. Christian Grolier, secrétaire général de FO Fonctionnaires, assume cette nouvelle arme de négociation.
Le contexte des Jeux Olympiques change la donne dans la mesure où, pour nous, c'est un moyen de pression qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Il est évident qu'on utilise cette période des JO pour que le gouvernement nous entendent davantage. Il n'y a pas de raison que ce soit une fois de plus des fonctionnaires qui payent.
Alors pour parler du niveau de préparation de nos entreprises, des enjeux que ça peut représenter en termes de management, comment la marque employeur peut en profiter pour briller et comment gérer l'après, j'ai avec moi Audrey Richard, présidente de l'Association Nationale des DRH, Caroline André-S, qui est avocate en droit social dans le cabinet Ayache, et Marc Landré, associé de SIA Partners. Merci d'être avec moi tous les trois. Marc, vous avez mené une étude sur cette question pour inciter les entreprises à se préparer. Est-ce qu'on sait combien de sociétés vont être directement impactées parce qu'elles sont basées à proximité, on va dire, des lieux évidemment de compétition, et on pense à Saint-Denis pour Paris?
Il y a à peu près 600 000 entreprises à Paris dont on sait que 60% sont dans le secteur marchand, donc potentiellement télétravaillable. Mais donc ça, c'est la masse globale. Par contre, ce qu'on sait, c'est l'impact que ça va avoir sur les déplacements, parce qu'on sait qu'il y a 11 sites de compétition qui vont avoir lieu dans la capitale, avec beaucoup de stations de métro qui vont être fermées, et on sait qu'il y a pire 43 sites de festivités qui vont entourer l'organisation des épreuves. Et ça va être très impactant en matière de déplacement, en matière de mobilité, en matière de circulation et sur tout type d'impact sur l'activité des entreprises. Donc on sait que potentiellement on a 600 000 entreprises, ouais, proches ou non des sites de festivités ou d'épreuves, qui vont être impactés par l'organisation de ces JO.
Ça va être ça le gros enjeu, Audrey Richard, pour les entreprises, c'est gérer notamment les déplacements?
Oui, mais pas que. Alors on a vu une grosse évolution là ces quelques dernières semaines, et bah, en tout cas, moi j'ai la vision de nos entreprises adhérentes à la NDRH, et je dirais que pour la plupart, elles se sont préparées, elles ont pu avoir des discussions avec leurs partenaires sociaux, pour soit échanger tout simplement, soit aller sur des accords. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est plus préparé qu'il y a quelques semaines.
Heureusement.
Voilà, évidemment, heureusement. Maintenant, il y a un enjeu énorme de communication interne également qu'il ne faut pas oublier puisque nos équipes, les salariés, les managers se posent tous ces questions.
Ça, on va en parler, ouais, évidemment, parce que Marc Landry le disait, bon, 60% des entreprises à Paris peuvent télétravailler, mais c'est évidemment pas le cas de tout le monde. Mais Caroline Andréès, quelles sont les règles en fait en termes d'organisation du travail? Est-ce que l'employeur peut tout demander?
Alors non, l'employeur peut pas tout demander, certainement pas en tout cas de manière unilatérale. Hein. Beaucoup de choses doivent passer par le biais de la négociation collective avec les partenaires sociaux, comme Audrey l'indiquait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a martelé depuis quelques mois la nécessité d'anticiper les discussions à intervenir avec les partenaires sociaux pour mettre en place des accords qui seraient des accords sur mesure en fonction des besoins des entreprises. Parce que les entreprises ne peuvent pas toutes recourir au télétravail, elles ne peuvent pas toutes fermer, tout simplement. Il faut rappeler que on a une sorte de kit de boîte à outils du chef d'entreprise face au JO qui va intégrer du télétravail, les congés payés, la fermeture des établissements et des sites qui vont être les plus impactés, la mise en place d'horaires flexibles. Mais toutes les entreprises ne peuvent pas utiliser tous ces outils, et en tout cas pas toutes dans les mêmes proportions. Yeah. Et donc, il faut évidemment anticiper au maximum, mettre en place de la négociation collective, sachant qu'il y a certains outils qui déjà aujourd'hui ne peuvent plus être mis en place,
par
notamment
exemple,
la fermeture imposée
du
des
site.
Entreprises,
ah,
du
oui.
site, ça n'est plus possible puisque ça doit être notifié au moins 2 mois avant. Donc comme ça passe par une négociation collective, là on a passé le délai.
Et est-ce que on peut refuser en tant que salarié l'organisation qui est mise en place par l'entreprise, puisque c'est quand même à la main de l'employeur, ça précisément?
Alors tout dépend de la manière dont l'organisation est mise en place. Si l'organisation est mise en place par le biais d'un accord collectif, qui est un accord majoritaire signé avec les organisations syndicales représentatives, non, ça s'impose aux salariés. Il y aurait, je pense, un bémol en ce qui concerne la mise en place du télétravail, puisque le télétravail doit être mis en place par le biais du volontariat, et le salarié pourrait théoriquement refuser, y compris si on a un accord collectif, la mise en place du télétravail, parce que celui-ci ne s'applique qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce type de configuration. Et la notion de circonstances exceptionnelles a été prévue par le Code du travail au moment du Covid. Aujourd'hui, on n'a pas de position administrative ou de recommandation du gouvernement qui viendrait nous dire, bah, en fait, on considère que les Jeux Olympiques constituent une circonstance exceptionnelle qui permettent à l'employeur d'imposer aux salariés de télétravailler.
Alors, on le disait dès le début, un des enjeux, évidemment, ça va être les déplacements. C'est sans doute ce qui stresse beaucoup et les employeurs et les salariés. Alors, il y a des choses qui ont été mises en place, hein, les fameux QR codes. Comment ça va se passer? Les explications déjà de Nathan Bocard.
Oui, il vous faudra montrer patte blanche pour s'approcher de la Seine. Tout le long des quais parisiens, une zone grise sera mise en place. Zone qui sera même élargie à certains endroits comme le Louvre, les îles de Paris ou les abords de la Tour Eiffel. Impossible d'abord pour les voitures d'y accéder, sauf quelques rares dérogations, les soignants ou les dépanneurs par exemple. Piétons et cyclistes, eux, pourront y rentrer sur présentation du fameux QR code. Il faut pour cela le demander sur le site passe-jeux.gouv.fr. Et même là, il faut se justifier, présenter une attestation employeur pour les professionnels, un justificatif de domicile pour les riverains. Les visiteurs, eux, peuvent fournir une preuve de réservation à l'hôtel, au restaurant ou au musée, par exemple. Pour les autres, sachez que Paris ne sera pas pour autant coupé en deux. Il sera toujours possible de traverser la Seine sur certains ponts, et cela même sans QR code.
Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Le chauffeur de taxi montre les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, regarde le jet d'eau. Il y a du soleil, bip bip.
Alors, les petits oiseaux et le soleil bip bip, Audrey Richard, pas tout à fait, hein, c'est quand même le capharnaüm annoncé, les déplacements. Vous dites, il n'y a pas que ça comme souci, mais j'imagine qu'en interne, pour les entreprises, là, il y a une communication pour rassurer tout le monde à faire.
Oui, et les managers ont bien en tête que même avec cette préparation, il y aura potentiellement des soucis. Et donc, c'est la flexibilité du manager qui va être importante. Donc on en parle, on prépare les équipes. Vous savez qu'il y a également des entreprises qui ont proposé d'aller travailler sur d'autres sites. Lorsqu'on a la chance d'avoir plusieurs sites, alors les entreprises ont donné la possibilité d'aller sur le site A, le site B, le site C, pour simplifier les déplacements de tout le monde.
Et si on regarde le paysage global, vous diriez, ce qui a été privilégié, c'est le télétravail, notamment pour les entreprises à Paris, ou c'est les vacances, la quasi-fermeture pendant la durée des Jeux ?
Non, ce qu'on a vu, c'est un peu plus de télétravail. Si, par exemple, le salarié avait 2 jours, alors il a une journée de plus. S'il avait 3 jours, alors il a une journée de plus. Mais ce qu'on remarque, c'est que les entreprises souhaitent quand même que les salariés viennent sur site. Donc, on a, je dirais que la majeure partie des entreprises se sont plutôt organisées comme ça, avec la souplesse. Et il y en a d'autres, en effet, qui ont choisi de proposer du full télétravail, du télétravail complet. À leurs salariés, mais je disais, de ce que j'ai vu, plutôt dans une moindre mesure.
Marc Landré, quels sont les risques qui peuvent menacer les entreprises au cours de ces JO ? Donc on a parlé là de la logistique, on va dire, les déplacements, on en a beaucoup parlé, on a entendu les syndicats faire monter la pression avec des menaces de conflits sociaux pour obtenir en amont des accords. C'est quoi les principaux risques ?
Outre les questions de mobilité et de transport, vous avez un risque en matière de logistique et de supply chain. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir s'approvisionner, je pense notamment au commerce, se faire ravitailler avec les fameux QR codes ou avec les limitations de circulation de mobilité. Et bien, il va falloir modifier les horaires, les parcours de ravitaillement. Donc là où avant une entreprise se faisait ravitailler, je pense à un restaurant ou à un hôtel à 6h le matin, bah peut-être que là il faudra le faire plus tôt dans la nuit ou plus tard dans l'après-midi en fonction de l'organisation des manifestations. Ça c'est un premier risque qui est vraiment identifié et qui demande à être, une fois de plus, on le répète, anticipé. Parce que le 26 juillet, il sera trop tard.
Oui.
Deuxième risque, et ça on l'a souvent minimisé, même si on en a quelques exemples récents, c'est les risques de cyberattaque. On parle beaucoup, on parle beaucoup de terrorisme ou de risques physiques, mais le risque digital est peut-être plus important. On avait mesuré, on anticipe plus de 4 milliards de cyberattaques durant la période des Jeux Olympiques, c'est-à-dire entre le 26 juillet et le 11 août, sur les entreprises et les organisations publiques françaises. C'est 10 fois plus qu'à Tokyo en 2021. Ouais. Et ça, je veux dire, il y a des règles simples à mettre en œuvre dans les entreprises pour se protéger, même si le 100% safe n'existe pas. Ouais. En revanche, il y a un certain nombre de pratiques, de mesures de précaution à prendre qu'il est bon de répéter en amont.
Alors c'est quoi, par exemple,
ces mesures ? Par exemple, c'est le phishing, d'éviter de cliquer sur des pièces jointes dans le cadre de mails qui ne seraient pas sécurisés.
Donc on fait des entraînements à blanc, on piège pour de faux ses salariés en amont pour pas qu'il se passe avoir le jour J.
Je vous donne un exemple qui est indirectement lié au JO. Sia Partners a organisé l'hiver dernier un séminaire à Val Thorens et on a fait du cyberterrorisme. On avait affrété 2 TGV et on a hacké les Wi-Fi des 2 TGV et tous les consultants qui se sont connectés au Wi-Fi du TGV. Eh ben, ont été hackés et lors de la grande plénière qui a eu lieu un certain jour, tous les téléphones portables se sont mis à sonner à la même heure, au même moment, parce qu'on avait décidé d'actionner. Pour montrer à quel point il est facile parfois de se faire avoir, et donc il est vraiment important pour les entreprises de prévenir et de mettre en place les correctifs qui permettent de ne pas se faire avoir le jour J.
André, Richard, on a l'impression, quand on discute avec les patrons d'entreprises, d'abord c'est assez tabou, les cyberattaques, et qui sont assez démunis aussi par rapport à ça. C'est une crainte, mais difficile à contourner.
Oui, bien évidemment, parce que comme le souligne Marc, on ne sait jamais et on est toujours à risque. Maintenant, dans les entreprises, nous avons communiqué auprès des salariés pour faire attention au phishing, pour changer des mots de passe, pour soigner son attention sur tous ces sujets de cyber. Donc la com a été faite. Oui, probablement il faut la refaire, mais les salariés sont plutôt sensibilisés sur ces sujets-là.
Et Caroline André S, si on regarde le risque de conflits sociaux, puisqu'il y a eu des négociations en amont pour préparer les JO, si on est parfaitement honnête, est-ce que finalement tout le monde n'a pas envie que ça se passe bien et on devrait connaître une période un peu tranquille par rapport aux menaces de grève ?
Alors oui, je pense que tout le monde a envie que les choses se passent bien et que on n'ait pas un historique de oh là là, il y a eu des grèves en France, il y a tout le temps des grèves et il y a même eu des grèves pendant les JO, c'est une évidence, hein. Parce que en plus dans le cadre de la négociation collective, il y a beaucoup d'entreprises qui ont effectivement traiter les problématiques d'organisation du travail, mais qui ont aussi, et je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire, vous évoquiez la marque employeur tout à l'heure, développer un projet autour des JO. C'est-à-dire, voilà, c'est un événement qui est un événement international, qui, globalement, les Français sont quand même très inquiet, mais aussi très fier que les JO soient à Paris. Mmh. Et donc, comment surfer sur la vague positive des JO au sein des entreprises, avec la mise en place des entreprises qui ont mis des challenges, il y a des entreprises qui ont mis en place des systèmes de diffusion, de salles dédiées, avec la diffusion de l'ensemble des sports, etc. Mmh. Et tout ça, ça aussi fait partie de la négociation collective pour contrebalancer les inquiétudes. Moi, ce que j'ai ressenti dans le cadre des négociations qu'il y a pu y avoir chez mes clients, c'est pas véritablement la recherche d'une prime, d'un effet de levier parce qu'on va être contraint, mais c'est on est très inquiet. Oui. On est très inquiet, les salariés sont inquiets, ils ne savent pas comment ils vont venir travailler, ils ont peur d'arriver tous les jours en retard sur leur lieu de travail, ils ont peur de ne pas pouvoir atteindre leur lieu de travail, qu'un défaut de performance leur soit reproché, etc. Donc, moi je dirais plus de l'inquiétude que profiter d'un effet de levier.
On va parler de la marque employeur parce que c'est très important et on l'évoque depuis tout à l'heure. On va l'évoquer avec Audrey Richard dans un instant. Mais Marc Landry, il y a un risque dans les entreprises de perte de motivation quand même pendant cette période des JO, soit parce qu'effectivement on a du mal à arriver au travail ou parce que quand il y a une compétition importante, un 100 mètres ou une chance de médaille française, on va avoir des salariés un peu moins concentrés.
Le pire n'est jamais certain. Effectivement, on l'a vu lors d'autres phases importantes de compétition internationale, je pense à la Coupe du Monde de football par exemple, où il pouvait y avoir certains jours, lorsque l'équipe de France jouait, quelques salles vides ou des motivations. Moi, à l'époque, j'étais dans les médias et je voyais les salles de rédaction qui étaient assez vides, avec les écrans géants qui servaient d'habitude à diffuser des actualités, avec le match de foot qui était retransmis. Donc, il peut y avoir ce risque-là, mais ça, comme le disait Caroline, ça s'anticipe, ça se prépare. Si on arrive à le tourner positivement en opportunité de croissance, de fédération et d'engagement des salariés, on peut faire en sorte que, d'une externalité négative qui est une démotivation ou un absentéisme particulier au moment où il y a une épreuve de l'équipe de France, on le transforme en un moment fédérateur de motivation collective d'équipe. Donc pourquoi pas. Après, le risque, il est vraiment sur l'absentéisme, sur la difficulté des salariés de pouvoir se rendre sur le site de travail, qui pourrait créer une rupture d'activité à un moment donné, alors que le client est là, alors que les appels entrants sont là et qu'il n'y a personne dans l'entreprise pour pouvoir y répondre.
Y compris entre les salariés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pourront venir assez facilement, ceux qui habitent loin, qui ne peuvent pas télétravailler. Il y a aussi une rupture d'égalité entre salariés, c'est ça ?
Exactement. Et avec, Audrey le disait, quelques techniques ou modalités qui ont été mises en œuvre, de travailler sur un site, mais encore faut-il avoir plusieurs sites, et des sites qui ne seront pas à côté de sites d'épreuve, mais également vous avez des entreprises qui ont décidé de financer des colonies de vacances pour permettre aux enfants des salariés de partir, pour que les salariés soient tranquilles et puissent venir plus facilement. Vous avez aussi la mise en place de locations, d'hébergements à proximité des entreprises pour permettre aux salariés de ne pas avoir à se déplacer le jour J alors qu'on sait qu'il y aura des contraintes, ou alors la location d'espaces de coworking à proximité des lieux d'habitation qui sont distancés par rapport aux locaux des entreprises. Donc il y a plein de techniques qui existent pour faire en sorte que ce moment soit le moins perturbant possible et le plus fédérateur et engageant possible.
Là, on peut dire merci au Covid, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'expérimentations à ce moment-là. Audrey Richard, c'est vrai, on le disait, pour un employeur, pour une marque qui est impliquée directement dans les JO, ou pas d'ailleurs, c'est un moment formidable de team building à la rigueur.
C'est un moment de joie, c'est un moment de fête. Alors, il y a en effet ceux qui participent, qui sont au cœur, et là, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'on est dans le feu de l'action. Maintenant, ce qu'on voit, après l'organisation, on en a parlé, les entreprises se mobilisent autour du sport. Et là, c'est vraiment très, très engageant pour l'individuel, pour le collectif. Et donc, on voit en effet des Caroline en parlait, des challenges autour du sport. Et ça peut être aussi de l'emploi et le sport, l'inclusion. par le sport, puisque on est tous, hein, notre problématique d'employeur, il est aussi tourné vers les recrutements. On peut passer par le sport pour aller vers l'emploi. Et c'est aussi en ce moment qu'on a un peu plus l'occasion de parler de cela.
Allez, les Jeux vont être une formidable fête, j'en suis sûr. Moi, ça sera un beau moment de communion dont on sera tous très fiers à l'issue. Merci à vous trois. Merci Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des DRH, Caroline